Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Il y a 5 ans, j'ai eu l'occasion d'aller en Amérique. Au cours de ce séjour, un ami m'a emmené, pour ne pas dire traîné, dans une petite salle de théâtre d'un quartier malfamé de New York. Une fois par mois, des gens viennent là et montent sur scène pour raconter des histoires vraies qui leur sont arrivées. Ils ont souvent écrit un texte, ils l'ont travaillé, appris par cœur, puis ont tâché de l'oublier pour raconter avec le plus de naturel possible. Ça s'appelle The Mott, ça existe depuis une dizaine d'années. À la fin de la petite représentation, un jury, choisi dans le public, décerne le prix de la meilleure histoire. Ça, c'est pour le côté américain. À partir de cette expérience, eux ont fini par en faire une émission de radio. C'était tellement bien que je me suis dit qu'on pourrait essayer de faire le contraire. D'abord l'émission de radio Les Pieds sur Terre, le podcast, et puis le premier de nos pieds sur scène, enregistré le 17 janvier 2015 au Théâtre du Rond-Point. Ils sont 7, ils ont accepté de partager avec vous des moments de leur vie, comme chaque jour, mais d'abord sur une scène devant tout le monde, sans filet, sans montage, ni maquillage. Nous en avons sélectionné 3 aujourd'hui pour commencer cette semaine spéciale Pieds sur scène. Le thème du jour, c'est l'extrême. Des récits d'expériences extrêmes donc, d'un point de vue social, politique, personnel, violente même parfois ou extrêmement surprenante. 3 histoires à la limite de l'extrême avec un alpiniste, une comédienne et une écrivaine. C'est jusqu'à 14h30 dans les pieds sur terre, quartier d'été, sur France Culture, évidemment.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Un matin de 1989, à 6400 mètres d'altitude, sous les pentes du col nord de l'Everest, en me réveillant, j'ai trouvé un cadavre au pied de ma tente. Le corps gisait dans la neige, un amas d'eau blanchie, des restes de mâchoire, je me souviens, avec 2 dents en or, et puis des morceaux de veste en tweed mêlés à des cordelettes de la tente qui lui servaient de linceul. Depuis des années, je suis un fan de l'Everest, je suis un dingue, et je connais tout de son histoire, de ses pionniers, de ses conquérants. Et j'ai su immédiatement que cette momie abîmée était bien celle de Maurice Wilson, mort en 1934. Ce n'est pas la première fois qu'il se montre. En 1935, des grimpeurs anglais l'avaient retrouvé, couché dans sa tente. Ce sont eux qui avaient récupéré son carnet de bord, son stylo, ses 2 drapeaux, et ce sont eux qui l'avaient glissé dans une crevasse. Mais vous le savez, les glaciers sont des fleuves lents, qui transportent ceux qui leur sont confiés. Alors Wilson, eh ben, il a migré dans la glace. Il est descendu avec le glacier. Et il en est ressorti à intervalles réguliers. C'est comme ça que des Chinois, en 1970, l'ont retrouvé et l'ont réinhumé. Et moi, en 1989, il avait quand même parcouru 600 mètres de dénivelé avant d'échouer à mes pieds. Maurice Wilson, citoyen britannique, est mort d'épuisement, de froid et quand même d'un bon grain de folie sur les pentes de l'Everest. C'est un type qui a tout fait dans la vie. Il a combattu les Allemands à Ypres en 1914, il a élevé du bétail en Amérique, vendu des fringues en Nouvelle-Zélande et séduit quelques belles femmes sur tous les continents. Et puis, quand il revient à Londres, il tombe gravement malade. Et là, il tombe dans les mains d'un médecin un peu fantasque, qui lui dit « il n'y a qu'une chose, c'est le jeûne et la prière ». Alors il jeûne, il prie et il est sauvé. Et là il se dit « il faut que je fasse partager la bonne nouvelle à mes compatriotes ». Et pour ça, il eut une idée complètement étrange. Il s'est dit « je vais gravir une cime invaincue, la plus haute du monde, pour montrer la suprématie de la foi ». Alors Wilson, qui a quelques économies, il commence par s'acheter un avion d'occasion. Il le baptise Everest, toujours vaillant. Il apprend à piloter et au bout de quelques leçons de pilotage et puis 2 ou 3 atterrissages ratés, il s'envole pour le Tibet sans aucune autorisation. Son vol est un exploit fantastique parce qu'il fait quand même 8000 km dans un avion en bois qui vole à 130 km/h. Il traverse les mers, les déserts et il atterrit en pleine mousson à Darjeeling, au nord de l'Inde, dans une plantation de thé. Et là, l'avion a beaucoup souffert. Et Wilson sait qu'il ne va pas pouvoir traverser la barrière himalayenne. Donc, c'est à pied qu'il va falloir rejoindre le Tibet, et encore une fois, à la barbe des autorités, parce que le Tibet est un territoire fermé à tous les étrangers. Alors, avec deux Sherpas qu'il a embauchés à Darjeeling, Wilson va marcher de nuit, pour ne pas se faire repérer, pendant 500 km avant d'atteindre le monastère de Rongbuk, à 5300 mètres, face à l'Everest. Wilson, c'est pas un alpiniste. Il a gravi quelques collines en Angleterre pour s'entraîner. Mais bon, il ignore tout des techniques qui lui permettraient d'assurer une ascension d'une telle envergure. Alors devant son dénuement, le vieil abbé du monastère de Rongbuk lui confie une paire de crampons que l'expédition de 1933 a laissé sur place. Pendant 4 semaines, Wilson s'use avec ses Sherpas sur les pentes de la montagne. Il n'a pas beaucoup de vivres et il compte sur les restes des expéditions précédentes. Alors de temps en temps, il trouve une cache avec un paquet de bonbons à la menthe, quelques boîtes de conserve, mais ce sont quand même surtout ses cigarettes qui lui manquent. L'altitude et les conditions climatiques l'épuisent. Et bientôt, ses Sherpas tombent malades. Il n'atteint même pas le col Nord à 7000 mètres, là où les difficultés réelles de l'Everest commencent. Alors, ses Sherpas ne lui font plus confiance. Fin mai, il l'abandonne. Et Wilson repart cette fois seul vers le sommet. Et c'est là, sous le col Nord, qu'un an plus tard, on le retrouvera dans sa tente. Et sur son carnet de bord, il y a ces mots incroyables, d'optimisme ou d'inconscience. Je repars, journée magnifique. Je raconte précisément cette histoire à tous les alpinistes qui se sont regroupés autour du cadavre. Alors je ne sais plus si c'est un Italien ou un Espagnol qui dit « Non, non, mais il a droit au sommet. Il faut qu'on l'emmène. » Alors certains se sont emparés d'un bout de Maurice Wilson, alors une petite écaille d'os, un bout de veste en tweed, une relique, en se disant « On va l'amener là-haut, au bout de son rêve, il le mérite. » Manque de peau, cette année-là, personne n'est allé au sommet de l'Everest. Donc je peux donc imaginer que Wilson a été posé à différentes altitudes. Quant à moi, je suis arrivé péniblement à 8300 mètres, avec l'ami Bruno, nous avons fait quelques images de la neige jusqu'à la taille. Et j'avoue que ce jour-là, j'ai vraiment pensé à personne, surtout pas à Wilson. J'ai pensé à survivre, j'ai pensé à redescendre, j'ai pensé que dans quelques jours, j'allais quitter ce curieux enfer de l'Everest et que c'était bien. Plus tard, chez moi, j'ai vite compris que j'en avais pas fini avec cette montagne. En plein hiver, j'étais allé sur un petit sommet à côté de ma maison, 2793 mètres. Il faisait froid et à la cime, je me suis abrité derrière un rocher. J'avais sous le dos la veste que j'avais à l'Everest. Et là, je me suis dit, en fouillant machinalement dans une poche, je vais trouver une cigarette, un bonbon, un truc comme ça pour me réchauffer. Et puis c'est là que j'ai senti quand même un drôle de caillou. Et quand je l'ai sorti, ah, je me suis dit, merde, je viens de retrouver Wilson une seconde fois. Et là, j'ai pris les cailles osseuses, j'ai creusé un peu la neige, j'ai creusé un peu le sol à côté d'une vieille croix de bois, et je l'ai posé, et je me suis dit, ben, au moins, Wilson est sur un sommet, l'Obiou, 2793 mètres, dans les Hautes-Alpes, peut-être que ça va l'amuser. Voilà. Depuis, je suis retourné 5 fois sur l'Everest. J'ai cumulé à peu près 1 an de ma vie sur ces pentes. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai passé 11 nuits à 8000 mètres. Et j'ai buté quand même 2 fois à 50 mètres du sommet. 50 mètres, c'est con, hein. Mais je suis toujours vivant. Et je sais que jamais je n'écrirai les quatre derniers mots de Maurice Wilson. Je repars, journée magnifique.
France Culture, les pieds sur terre.
Ma mère a toujours été borderline. Elle aimait le danger, elle aimait prendre des risques, elle aimait le rock'n'roll. Elle s'appelle Antoinette. Elle est née à Madagascar. Elle est arrivée en France à 19 ans pour travailler comme bonne d'enfant dans des familles bourgeoises. Avec elle, mon frère et moi, on a vécu dans toutes les chambres de bonne des quartiers chics de Paris. Place du Palais Royal, avenue Bugeaud, avenue Foch dans le 16e. Pour s'intégrer, Antoinette fumait des gauloises. Elle en offrait à tout le monde. Elle fumait pour rester glamour. Elle a fumé toute sa vie. Le soir, elle nous emmenait au spectacle, on rentrait à minuit. Parfois, elle sortait sans nous, elle allait en boîte de nuit avec des rockers. J'avais 5 ans, je restais seule avec mon petit frère, j'avais l'habitude, je trouvais ça normal. Elle faisait aussi des fêtes à la maison avec des mecs en blouson noir. Je trouvais ça normal aussi, j'avais l'habitude. Elle s'habillait en perfecto, elle mettait sa salopette rose. Elle faisait aussi l'amour avec un beau rocker. Ni vu ni connu, enfin presque. Avec mon père, ils passaient leur temps à se séparer, se remettre ensemble. On avait l'habitude. Ma mère avait toujours rêvé d'ouvrir un salon de coiffure. Alors elle a pris des cours de coiffure. Elle est amère quand elle raconte son premier boulot. Les clientes refusaient d'être coiffées par une noire. Les seuls cheveux qu'elle a touchés dans ce salon, elle les a balayés. Elle rêvait aussi d'être styliste. Elle était fan du Figaro Madame. Elle était convaincue qu'il lui piquait ses créations. Elle cousait elle-même ses vêtements, des tenues tout aussi loufoques les unes que les autres. Elle rêvait aussi de voir son fils, qu'elle avait envoyé à l'âge de 3 mois à Madagascar parce qu'elle ne pouvait pas s'en occuper à l'époque. Alors un jour, elle a décidé de nous emmener à Madagascar pour un grand voyage. J'avais 11 ans, c'était en 1986. Elle était tellement heureuse de revoir son fils et son île qu'elle n'avait pas vu depuis 15 ans. Mon petit frère, lui, qui avait 7 ans, était choqué par la misère. À notre arrivée à l'aéroport, des grappes d'enfants tout maigres nous ont accostés. L'un d'entre eux est arrivé vers nous. Il nous a parlé en malgache, nous a regardés, puis s'est ravisé et nous a demandé en français « donner argent ». Il était tout maigre. Il faisait la taille de mon frère et la moitié de son poids. C'était la crise à Madagascar. On devait rester tout le mois d'août. En septembre, je rentrais en 6e. La veille du départ, ma mère était anxieuse à l'idée de rentrer à Paris. Quand on est arrivé à l'aéroport de Tananarive, à la douane, ils n'ont pas voulu nous laisser emporter tous nos souvenirs. Alors, il y avait une quarantaine de coquillages, une carapace de tortue, des litres d'huile de coco, et j'en passe. Ils ont tout confisqué. On n'a rien pu faire. Alors ma mère a décidé sur un coup de tête qu'on ne pouvait pas laisser toutes ses affaires à l'aéroport et donc on devait rester à Madagascar. J'étais très inquiète parce que je savais qu'on n'avait plus un rond et je voyais pas comment on allait faire pour rester. Alors à la douane, heureusement, il y avait un douanier qui était plutôt sympa et il nous a proposé de rester chez lui pour la nuit, le temps qu'on trouve une solution. Il s'appelait Zimbabwe. Il avait une femme très jolie, toute menue, et 2 enfants de 5 et 7 ans, et un nouveau-né. Le lendemain matin, ma mère a décidé qu'elle allait devoir retourner dans son village à 1000 kilomètres. Là, j'avais très très peur. Elle avait promis de revenir dans 3 jours. Le lendemain, elle est partie très vite en me demandant de surtout pas ouvrir les valises. Comme nous venions de France, la famille du douanier se pliait en 4 pour nous. Et on avait un certain prestige. Et tous les voisins venaient voir les vaïnes de France. Mais bon, moi je savais que ma mère, elle allait pas revenir. Et ils commençaient eux-mêmes à s'inquiéter. Et ils me demandaient, elle est où? Elle revient quand? Moi je la connaissais, ma mère. Et je savais qu'avec elle, on pouvait ni trop prévoir, ni trop savoir. Et qu'on pouvait s'attendre au meilleur comme au pire. Avec mon petit frère, on dormait dans un lit à l'étage, ensemble. Et tous les matins, on se prenait les mains, on s'accroupissait sur le lit et on imaginait qu'un avion passait au-dessus de nos têtes et qu'en hurlant très fort, il nous prendrait à bord pour nous ramener en France. Alors à un moment donné, j'ai pris les choses en main. J'ai décidé d'ouvrir les valises et de vendre nos affaires aux voisins. Ma montre en quartz, mes baskets de marque, mon déodorant. Avec beaucoup d'appréhension, j'ai commencé à vendre les tailleurs de ma mère. Je vendais pas seulement des vêtements, je vendais du rêve. Je les embobinais, je les baratinais en leur évoquant toutes les merveilles que nous avions en France. Enfin, à Barbès. Un mois, deux mois, trois mois ont passé, nous étions devenus des enfants de la balle. J'avais plus beaucoup d'espoir de revoir Antoinette. Je pensais qu'elle était morte. Et tous les matins, on espérait que l'avion au-dessus de notre tête s'arrête et nous ramène en France. Un matin, alors que je suis descendue pour aller prendre le petit déjeuner, je l'ai vue, elle était là, dans sa salopette rose, élégante et belle avec ses petits seins en poire. C'était au mois de novembre, elle était partie trois mois. Elle a raconté qu'elle était partie chercher une solution pour trouver de l'argent, mais je savais que c'était pas vrai. J'ai jamais su ce qu'elle avait fait pendant tout ce temps. Peut-être qu'elle a essayé de convaincre son fils de venir avec elle. Je sais pas. On est rentré en France sans son fils. On a repris notre vie rock'n'roll. Aujourd'hui, je fume des clopes. Et aujourd'hui, Antoinette essaie de reprendre son souffle à l'hôpital Saint-Louis.
Alors, il y a 10 ans, dans un petit collège du Massif Central, il y a 5 enfants, 3 filles et 2 garçons, qui ont tabassé un autre garçon. Ce jour-là, moi, je m'en souviens particulièrement parce que j'étais là, je faisais partie des 3 filles. J'ai passé ma 6e et ma 5e dans un établissement de campagne. C'est un endroit où tous les gamins des hameaux et des villages d'un département rural se retrouvent. J'étais plutôt une bonne élève, j'avais des bonnes notes, j'avais même des très bonnes notes, mais c'était compliqué pour moi et pour d'autres. Parce qu'en 6e, dans la classe, il y avait des zones, il y avait des tribus adolescentes. Il y avait d'un côté des gens populaires, des garçons populaires. Ils étaient souvent au fond de la classe et ils étaient souvent assez beaux, ils étaient un peu grande gueule. Ils avaient les vêtements à la mode de l'époque, dans les années 90, c'était des pantalons larges et des pulls très larges. Mes parents, ils appelaient ça des sacs à patates. Et il y avait, à côté de ces garçons-là, au premier rang, il y avait des filles qui travaillaient beaucoup, qui étaient silencieuses. Et personne ne les emmerdait, ces filles, parce qu'on disait « Ouh là là, elles travaillent !» Et puis les profs les adoraient. Alors si les profs les adoraient, on ne pouvait pas s'en prendre à elles. Et au milieu de ça, il y avait la masse des autres. Il y avait tous ces élèves qui étaient un peu chahuteurs, un peu paumés, qui ne ressemblaient pas à grand-chose. Et tous ces élèves... Ils pensaient qu'il y a une chose dans leur tête. À ce moment-là, en 6e, à 12 ans, ils se disaient « Soit je fais partie de ceux qui cognent, soit je fais partie de ceux qui se font cogner. » Parce que, à cet âge-là, si on n'est pas beau gosse, si on n'a pas quelque chose en plus, un don en plus, il faut raser les murs, il faut surtout pas se faire remarquer. Il faut pas être celui sur qui les autres, celui ou celle sur qui les autres vont s'acharner pendant 4 ans. Et moi, dans ma classe... Il y avait, on va dire, 3 ou 4 têtes de turc. Il y avait des boucs émissaires. Mais je ne savais pas à l'époque ce que signifiait ce mot. Et c'était des garçons. Il n'y avait que des garçons qui étaient boucs émissaires. Il y en avait un en particulier, il s'appelait Laurent. Et Laurent se foutait de sa gueule en permanence. Et le pire, c'est que lui, ça le faisait rire. C'est comme s'il avait accepté d'être un épouvantail de service. Un jour, c'était un mois après la rentrée des classes, il arrivait en classe, il était tout mouillé, tous ses vêtements mouillés. Et la prof, elle l'a regardé, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais comme ça ?» Et il était venu à vélo, il était tombé dans la rivière avant d'arriver en classe. Et à partir de ce jour-là, mais c'était terminé pour lui, on s'est foutu de sa gueule tout le temps. Et je me souviens qu'un jour, après manger, après être passé à la cantine, j'étais avec des amis dans un couloir en silencieux et nous on parlait très fort et on s'amusait, on rigolait. On était assis sur les marches et on a vu Laurent qui descendait l'escalier. On l'a vu arriver et il portait son jean très très bas, son pantalon de jogging très très bas, on voyait son slip et le début de l'arrêt de ses fesses. Alors il y a une fille qui lui a dit « Mec, vas-y, remonte ton string !» Forcément, tout le monde s'est marré. Lui aussi, il a rigolé. Il y a un des gars assis sur l'escalier avec nous qui a essayé de lui faire un croche-patte. Et Laurent, il a vu ça et il a évité le croche-patte. Et à ce moment-là, moi, j'ai regardé mon copain et je lui ai dit « Attends, mais t'as même pas réussi à faire tomber le débile. Enfin, c'est la honte. Enfin, là, c'est vraiment la honte, mec, vraiment, quoi. » Et à partir de là, c'est parti en vrille. On n'a plus rien contrôlé. C'est-à-dire que mon copain, il était super énervé. Il s'est levé. Il a attrapé Laurent, il l'a fait tomber. Et Laurent, il riait. Le pire, c'est qu'il riait, quoi. Et plus il riait, plus ça nous énervait. Alors, on s'est tous levés. Mon copain, il a pris Laurent par le col et puis il l'a traîné sur toute la longueur du couloir par le col. Il avait ses vêtements qui ratissaient le lino, comme ça. Et mon pote, il le tirait et il disait « Attention, c'est le ramassage scolaire !» Et nous, ça nous faisait rire. Mais je crois que j'ai jamais autant ri cette année qu'à ce moment-là. Et il est arrivé au bout du couloir. Nous, on suivait en riant. Laurent, il riait un petit peu moins à ce moment-là. Il a essayé de se relever. Et mon pote, il lui a dit « Non, mais tu te relèves pas. » On était autour de lui. Il lui a coincé la tête sous le bras. Comme ça, il lui a fait un shampoing. Un shampoing, ça consiste à frotter très, très fort sur le crâne de quelqu'un avec son poing fermé. Et ça fait excessivement mal. Surtout quand il y en a 5 qui vous regardent. Pendant qu'il faisait le shampoing, nous, on s'est mis à le taper. Sur les bras, sur les jambes, là où on pouvait. Surtout les filles. Parce que à ce moment-là, on était tellement contents, mais tellement contents de ne pas être celui ou celle sur qui on tapait. On était tellement soulagés d'être à cette place-là qu'on a tapé encore plus fort. Et puis à un moment donné, quelques secondes après, il y a une voix derrière nous qui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Et tout s'est arrêté, on s'est retourné et c'était la principale du collège avec notre professeur de français. Et d'un coup, tout s'est arrêté. Et Laurent, il riait plus du tout. Il pleurait, franchement. Alors évidemment, on a été collés. Il y en a qui ont été renvoyés. On est passé devant l'infirmière pour expliquer pourquoi on avait fait ça. Pour dire qu'on était désolés, alors qu'on n'était pas du tout désolés. Mais la violence, c'est très simple, c'est brutal. On ne voulait pas être à la place de Laurent. Donc on était ceux qui étaient au-dessus. Après ça, j'ai passé encore un an au collège et mes parents m'ont changé d'établissement pour tout un tas de raisons. Et j'ai pas repensé à cette histoire pendant des années. Jusqu'au lycée, en fait. J'ai omis cet événement et un jour, on reparlait de nos années collège et je me suis souvenu de ça et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à lui? Parce que nous, on savait pourquoi on faisait ça, mais lui, est-ce qu'il allait se venger sur nous? Est-ce qu'il avait l'habitude, parce que tout le monde lui cognait dessus tout le temps et tout le monde sautait de sa gueule, comment il avait vécu ça et qu'est-ce qui allait se passer par la suite? Est-ce qu'il allait essayer de nous retrouver les uns après les autres et de nous tuer comme dans un livre de Stephen King? Je me suis posé cette question et c'est devenu un fardeau psychologique. C'était mon verre de culpabilité qui débordait à chaque fois que je voyais des gamins dans la rue qui se tapaient dessus. Et je repensais à cette histoire. Et un jour, il y a 2 ans, dans les rues de Clermont-Ferrand, je sortais d'un supermarché avec mes sacs de courses. Et devant moi, je vois arriver un mec d'1m90, super bourru, et je me dis « Oh là là, c'était Laurent ». Et il m'a reconnu. Et moi, j'étais là avec mes sacs de courses, j'étais pétrifiée. J'ai vu arriver vers moi, je me suis dit « Il va me défoncer la gueule ». Et j'avais envie qu'il le fasse, j'avais envie qu'il me cogne, j'ai envie de lui dire « Mais vas-y, cogne-moi parce que je l'ai mérité, et puis tu vas me libérer cette culpabilité, tu vas me libérer de l'image que j'ai de moi-même d'avoir été comme ça ». J'étais là avec mes sacs comme ça, pétrifiés sur place, mais je voulais qu'il vienne et je voulais qu'il m'insulte, je voulais qu'il me tape dessus. Et il est arrivé, il m'a dit « Ah, ça va ? Tu veux pas qu'on aille boire un verre, un de ces quatre ?» Et alors... Je sais pas s'il avait oublié cette histoire et est-ce que c'est moi qui me suis fait tout un plan dans ma tête? Est-ce qu'il avait développé un syndrome de Stockholm en se disant finalement je suis partie d'un truc? Mais en tout cas, quand je vois des gamins maintenant dans la rue qui sont tous ensemble et qui rigolent et qui parlent très fort, j'ai envie de leur dire mais vous ne savez pas de quoi vous êtes capable.
Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you.
thought that I'd be sad without you. I laugh harder. You thought I wouldn't grow without you. Now I'm wiser. You thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you. So 9 million.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, spécial quartier d'été, pour écouter ou réécouter une nouvelle expérience que nous avons appelée Les Pieds sur Scène à la limite de l'extrême, une émission signée Sonia Kronlund, réalisée par Thomas Jost et Olivier Guérin avec l'aide de Philippe Baudouin. Merci à Jean-Michel Asselin que nous avons entendu, c'est l'alpiniste, à Elena Brokolic, c'est la jeune femme et l'histoire de sa maman, et à Cécile Coulon qui a partagé ses souvenirs de collège. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Céline Autain, notre stagiaire. Retrouvez une captation de ces histoires en vidéo sur le site des Pieds sur Terre. Elle a été réalisée par Valérie Borst, mise en ligne par Sébastien Lopoukine. Et si vous voulez voir en vrai, c'est-à-dire pas en son ni même en image, mais en vrai, avec des intervenants en chair et en os, rendez-vous au Théâtre d'Autun le dimanche 15 juillet, dimanche prochain. Il y aura 2 représentations des Pieds sur Scène, une à 11h et une à 14h. Et c'est dans le cadre des rencontres de juillet, le Festival des Histoires Vraies. On y sera, et vous aussi, j'espère.
That I will fail without you, but I'm on top. You thought it would be over by now, but it won't stop. You thought that I would self-destruct, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. What I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive and keep on surviving. Wishing you the best. Pray that you are blessed. Bring success, no stress, and lots of happiness. I'm better than that. I'm not gonna blast you on the radio. I'm better than that. I'm not gonna lie to you and your family. I'm better than that. I'm not gonna hate you in the magazines. I'm better than that. I'm not gonna compromise my Christianity. Tell me better than that. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. But I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive and keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. But I'm gonna work harder. I'm a survivor. Survivor, I'm gonna make it. I will survive.